L'épître aux Hébreux, chers amis, est l'épître des cieux ouverts. Nous avons souvent entendu cette expression et nous ne la répéterons jamais trop. Quand nous abordons une telle épître, nous avons besoin de nous souvenir que l'Esprit de Dieu ouvre le ciel devant nous. Le chemin des lieux saints nous est ouvert. Il était fermé sous l'ancienne alliance. Le Seigneur Jésus étant venu sur la terre, ayant accompli l'œuvre expiatoire de la croix, l'accès du ciel nous a été ouvert. Et l'Épître aux Hébreux est cet oracle qui nous présente les cieux ouverts, et qui en nous présentant le ciel ouvert, nous présente l'adorable et glorieuse personne qui s'y trouve. C'est la personne de Jésus lui-même, le Seigneur Jésus, dont le nom de Jésus tout seul est mentionné pas moins de 9 fois depuis le chapitre 2 jusqu'au dernier chapitre. C'est Jésus, chers amis, que nous contemplons dans le ciel en lisant l'Épître aux Hébreux. Nous répétons cette épître et l'épître des cieux ouverts. Ouverts pour que nous puissions y contempler l'adorable personne de Christ. Quelques-uns peut-être auront trouvé nombreuses les lectures que nous venons de faire. On a tous remarqué que quelques versets ont été lus dans chacun des chapitres de cette épître. On aura aussi sans doute remarqué que s'il n'a été rien lu du chapitre 11e, il a été lu les premiers versets du chapitre 12, qui sont la conclusion de ce chapitre 11. Tous ces passages, et nous n'avons pas la pensée, chers amis, d'avoir lu tous les passages de l'Épître aux Hébreux, qui nous parle de la personne du Seigneur Jésus dans le ciel. Il s'en faut beaucoup. Nous avons simplement lu les passages qui nous présentent son élévation dont la gloire, sa présence dans le ciel, sa séance à la droite de Dieu le Père. Et nous aimerions inciter chacun ici à relire cette épître dans le but d'y apprendre à connaître mieux l'adorable personne de Jésus qui se trouve dans le ciel maintenant à la droite de Dieu le Père et officiant en notre faveur. Nous connaissons tous le mystère de la piété duquel l'apôtre dit à Timothée que sans contredit, il est grand. La dernière composante de ce mystère de la piété, 1 Timothée 3:16, est celle-ci, Dieu élevé dans la gloire. La première, Dieu manifesté en chair. La dernière, Dieu élevé dans la gloire, dont la personne de Christ. Et c'est ce que nous avons dans cet épître aux Hébreux. Au chapitre 1er, l'apôtre nous présente le Seigneur Jésus qui s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Tout d'abord, il nous présente des gloires infinies d'une telle personne. Il nous rappelle que Dieu a parlé autrefois à son peuple par les prophètes. C'est ce qu'il a fait tout au long de l'économie de la loi. Et à la fin de ces jours-là, c'est-à-dire de cette économie de la loi, Dieu nous a parlé dans le Fils, il nous a parlé au Fils, dont toute la gloire va nous être désormais présentée au cours de l'Épître. Il nous a parlé en Fils, Dieu étant en Christ, Christ étant dans ce monde, et appelant les âmes à venir à la connaissance de celui dont il apportait la pleine révélation, c'est-à-dire Dieu le Père. Ce soir, nous pouvons l'invoquer comme étant le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a donc parlé dans le Fils, il a parlé en Fils, et c'est l'occasion pour l'apôtre de nous dire qu'il est tout d'abord l'héritier de toutes choses, qu'il est ensuite le Créateur par lequel aussi il a fait les mondes, qu'il est ensuite le resplendissement de sa gloire, l'empreinte de sa substance, qu'il soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Puis, sixième gloire, ce qu'il a fait, il a fait par lui-même la purification des péchés, il a fait par lui-même, et toute gloire désormais revient à notre puissant Rédempteur. Et enfin, septième pensée, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Dans les quelques minutes que nous avons devant nous, il nous sera donné de voir, ou plutôt de rappeler, qu'il y a quatre passages dans cette épître où il nous est parlé de ce grand fait du Seigneur Jésus qui s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. L'épître aux Hébreux, chers amis, l'épître des cieux ouverts, l'épître par laquelle nous contemplons le Seigneur Jésus d'après ce premier chapitre, qui s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Puissions-nous le contempler davantage, puissions-nous penser à notre Seigneur qui est là-haut, dans le ciel, dans la gloire, et qui ne cesse, dans sa grâce infinie, de travailler en notre faveur. Il est notre grand souverain sacrificateur, et c'est là un autre grand sujet de cette épître aux Hébreux, épître inépuisable, puisqu'elle appartient au canon inspiré des divines et des saintes écritures. Et ensuite, l'apôtre va parler de la divinité d'une telle personne. Il va jusqu'à la fin du chapitre nous le présenter comme étant le Fils de Dieu qui est supérieur aux anges, bien supérieur aux anges, infiniment supérieur aux anges. Et l'apôtre, pour cela, pour une telle démonstration, va se servir des témoignages même de l'Ancien Testament. Il va puiser dans l'Ancien Testament sept passages, sept citations, dont six appartiennent au livre des psaumes et une au premier livre des chroniques. Et par ces passages, il va montrer d'une manière absolument irréfutable la gloire de celui qui est le Fils de Dieu lui-même, c'est-à-dire dont la grandeur est infiniment supérieure à l'ange le plus élevé qu'il soit en gloire. Chers amis, retenons cette pensée de ce premier chapitre. Jésus assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. C'est sur ce verset-là que nous aimons attirer l'attention dans cet épître, qui est l'épître des cieux ouverts. Voilà qui nous voyons dans le ciel, celui qui s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Et nous le voyons là-haut, chapitre deuxième. Nous voyons Jésus, premier passage, répétons-le, où le nom de Jésus tout seul est mentionné dans cet épître. Il le sera encore 8 fois jusqu'à la fin. Nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur. Couronné de gloire et d'honneur. Quand la sainte sacrificature a été établie en Israël, c'est-à-dire quand Aaron et ses fils, Éléazar et Ithamar, et tout d'abord les deux aînés, Nadab et Abihu, ont dû s'approcher de l'Éternel pour entendre par Moïse ce que l'Éternel avait à leur dire en leur confiant la charge de la sainte sacrificature. Début du chapitre 28e de l'Exode, il est dit que des vêtements devaient leur être faits, des vêtements qui leur seraient pour gloire et pour ornement. Dans notre passage, il est dit, nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur. Nous savons tous que l'Ancien Testament a été écrit primitivement en hébreu. Le Nouveau Testament a été écrit dans la langue grecque. Nous savons peut-être aussi qu'il existe une traduction grecque de l'Ancien Testament, traduction à laquelle on donne le nom de version des Septante. Eh bien, chers amis, lisons dans cette version des Septante, traduction grecque de l'Ancien Testament, et lisons dans le texte original, grec évidemment, du Nouveau Testament, nous voyons que ce sont les mêmes termes qui sont employés en rapport avec cette gloire des vêtements sacerdotaux. C'est comme s'il était dit en Exode 28, « Et tu leur feras des vêtements qui leur seront pour gloire et pour honneur. » Comme il est dit en Hébreux 2, nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur. Il est notre divin Aaron, il est notre grand souverain sacrificateur, couronné de gloire et d'honneur. L'épître aux Hébreux, l'épître des cieux ouverts, l'épître dans laquelle nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur. Dans l'Ancien Testament, qui est là pour nous donner à connaître la venue de quelqu'un qui serait le Messie. L'Ancien Testament est le livre du Messie promis. Il est un passage au psaume 21, le psaume donc qui précède, le psaume auquel nous revenons si souvent avec adoration et avec beaucoup de respect, qui précède le psaume 22e. Dans ce psaume 21 est-il dit, en parlant du roi Messie, de celui qui viendrait, Jésus lui-même, tu as mis sur sa tête une couronne d'or fin. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, au verset 14, nous n'avons plus affaire au roi Messie, nous avons affaire à celui qui vient tel que le juge pour juger en justice la terre habitée tout entière. Et que nous est-il dit de ce quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme, qu'il a sur sa tête une couronne d'or? Mais de tels passages, psaume 21, Hébreux 2, Apocalypse 14, Est-ce qu'ils ne nous font pas penser à la couronne dont les hommes ont osé revêtir la tête auguste de notre Seigneur, une couronne d'épines qui par ailleurs était l'expression de la malédiction dont il allait être fait de la part de Dieu pour nous qui méritions d'être fait malédiction et malédiction à jamais. Une couronne d'épines, voilà ce que les hommes ont réservé au Seigneur de gloire. Et cette couronne d'épines, comme le dit si bien le cantique, nous fait toujours penser à la couronne d'or fin, qui est celle du roi Messie, à la couronne d'or qui sera celle du juge, à cette couronne dont il est revêtu maintenant quand nous regardons par la foi dans le ciel ouvert et que nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur. On voit dans ces chapitres combien l'apôtre éprouve le besoin de revenir toujours aux souffrances du Seigneur. Il y reviendra encore, et bien des fois, au cours de cet épître. Il nous parle de la gloire du Seigneur élevée dans le ciel, mais d'abord, il nous parle de l'œuvre qu'il a accomplie. Il nous parle des souffrances indicibles de la passion de la mort qu'il a dû connaître. Nous avons lu au chapitre premier, il a fait par lui-même la purification des péchés. Nous lisons maintenant au chapitre 2 qu'il a goûté, qu'il a connu la passion de la mort. Et maintenant, élevé dans la gloire, il est couronné de gloire et d'honneur, et nous avons le bonheur de le contempler comme tel. Nous passons au chapitre 3, où nous voyons le Seigneur Jésus qui est établi. Il est établi sur sa maison. Au chapitre 1er, il s'est assis à la droite de Dieu le Père, à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Au chapitre 2e, il est couronné de gloire et d'honneur. Au chapitre 3e, il était établi sur sa maison et nous le voyons dans son autorité. L'exemple de Moïse est tout d'abord rappelé et la fidélité incontestablement très grande de Moïse, elle est déjà relevée du temps où il vivait sur cette terre. Lisons le chapitre 12 du livre des Nombres, nous verrons combien l'Esprit de Dieu prend soin de rappeler. L'Éternel lui-même, prenant la défense de son serviteur, rappelle qu'il a été fidèle. Il a été fidèle, et l'apôtre ici le rappelle en disant que celui-là a été jugé digne d'une gloire d'autant plus grande que celle de Moïse, que celui qui a bâti la maison a plus d'honneur que la maison. Au verset 5, et Moïse a bien été fidèle dans toute sa maison, comme serviteur en témoignage des choses qui devaient être dites. Il a été fidèle, Moïse. Et quelle fidélité, chers amis, fidèle dans toute sa maison, la maison d'Israël. Mais remarquez la différence, la nuance qu'il y a quand le Seigneur Jésus parle, quand l'Esprit de Dieu nous parle d'un plus grand que Moïse. Le Seigneur Jésus lui-même. De Moïse, il est dit qu'il a été fidèle dans toute sa maison. Si pieux, si qualifié, si fidèle qu'il ait été, il n'en était pas moins fidèle dans toute sa maison. Il n'était qu'un homme au milieu des autres hommes de son peuple, dans sa maison. Quand il s'agit du Seigneur Jésus, l'Esprit de Dieu vient nous dire qu'il est fidèle sur toute sa maison et nous sommes sa maison. La maison, ici, ce n'est pas à proprement parler la collectivité des chrétiens envisagée sous le caractère de l'Assemblée de Dieu. On sait qu'il n'est pratiquement à une exception près, à parler de l'assemblée dans l'épître aux Hébreux, la maison est là synonyme de famille. C'est la famille de Dieu, c'est l'ensemble des enfants de Dieu. Et bien sûr, cette famille, le Seigneur est établi. Cette famille doit tout respect et tout honneur à son Seigneur. Le Seigneur qui lui-même, dans l'exercice de ses fonctions, de son activité de grâce, est fidèle sur toute sa maison. Il a toute autorité sur sa maison, pas dans sa maison, comme il est dit pour Moïse, sur sa maison. Et ainsi, nous avons donc le Seigneur dans le ciel, présenté dans son autorité, établi sur toute sa maison, l'immense famille des enfants de Dieu. Nous devons, chers amis, chers enfants de Dieu, nous devons tout honneur, tout respect à notre Seigneur. Ne l'oublions pas. Il n'est pas seulement notre Sauveur, il est notre Seigneur, et à lui comme tel reviennent tout respect, tout honneur, toute obéissance de notre part. Le Seigneur établit sur sa maison. Au chapitre 4e, il nous est parlé de notre grand souverain sacrificateur encore. Nous avons vu que le chapitre 3 commence par ces mots, considérez, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession, Jésus qui est fidèle. Considérons-le, contemplons-le, voyons-le couronné de gloire et d'honneur, considérons-le, une exhortation qui revient plus d'une fois dans cet épître, dans notre chapitre 3, au chapitre 7e, au chapitre 12e, considérez le Seigneur, regardez de près cette adorable personne, apprenez à le connaître toujours mieux, pour aussi l'aimer toujours mieux et le servir toujours davantage dans la conscience de tout ce qui lui revient de notre part. Au chapitre 4e, nous avons donc notre grand souverain sacrificateur, Jésus, qui a traversé les cieux. Que veut dire cette expression, qui a traversé les cieux? Il faut évidemment nous en référer au tabernacle d'autrefois, au milieu du peuple d'Israël, pensez au parcours qu'accomplissait le souverain sacrificateur à Aaron. Il entrait depuis le désert, il entrait dans le parvis, il traversait le parvis, ensuite il entrait dans le lieu saint, et puis, une fois l'an, il entrait, non sans du sang, dans le lieu très saint. Et c'est ainsi que ces différentes parties du tabernacle représentent les différents cieux dont nous parlons souvent. Eh bien, comme Aaron devait traverser ainsi, parvis, lieu saint, pour arriver au lieu très saint, ainsi le Seigneur Jésus, ayant accompli l'œuvre expiatoire de la croix, a traversé les cieux, pour entrer, comme nous l'a rappelé le chapitre 9, jusque dans la présence même de Dieu. Il est entré dans les cieux une fois pour toutes. Eh bien, il a traversé les cieux. Il est parvenu jusque dans la présence même de Dieu. C'est là que nous avons le bonheur de le voir. Jésus, le Fils de Dieu. Et il est dit, un grand souverain sacrificateur. C'est le seul passage de l'Épître où nous avons cette expression, un grand souverain sacrificateur. C'est même le seul passage de la parole où nous ayons une telle expression. Quand on dit un souverain sacrificateur, on a déjà beaucoup dit. Un souverain sacrificateur, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un. Un est souverain sacrificateur. Tous les autres constituant la famille sacerdotale sont des sacrificateurs. Le Seigneur est plus que notre souverain sacrificateur, il est un grand souverain sacrificateur. Il est au-dessus, infiniment au-dessus de tout sacrificateur, de tout souverain sacrificateur. Ces souverains sacrificateurs qui se sont succédés dans le temps n'étaient que des figures, des types de notre grand souverain sacrificateur, Jésus. Eh bien, chers amis, maintenant que nous savons qu'il a traversé les cieux, qu'il a été élevé dans le ciel, qu'il est à la droite de Dieu le Père, qu'avons-nous à faire? Dans ce chapitre quatrième, nous avons quatre impératifs dont il faut se souvenir et qui ont une très grande importance pour notre vie pratique. Tout d'abord, au premier verset, craignons donc une promesse ayant été laissée d'entrer dans son repos, quelqu'un d'entre vous paraisse ne pas l'atteindre. Second impératif, nous l'avons au chapitre 11e, appliquons-nous donc à entrer dans ce repos-là. Troisième impératif, le verset que nous venons de lire, ayant donc un grand souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme notre confession. Notre profession, si nous voulons, celui dont nous parlons, celui auquel nous appartenons, eh bien, tenons ferme notre confession. Ne chancelons pas, ne doutons pas, tenons ferme dans la foi, dans cette foi qui s'attache à sa glorieuse personne. C'est lui qui est dans le ciel tel que notre souverain sacrificateur. Nous le répétons, il officie en notre faveur, il travaille en grâce en notre faveur, il prie pour nous, il intercède pour nous, il sympathise à toutes nos infirmités, ce que nous avons dans notre verset. Ce n'est pas une petite chose, chers amis, que de penser à l'assistance de notre Seigneur, l'assistance toute puissante et toujours opportune de notre Seigneur. Ce n'est pas une petite chose que de penser aux sympathies de notre grand souverain sacrificateur. Personne ne peut sympathiser comme lui. Il sympathise à nos chagrins, à nos peines de cœur. Nous passons par le deuil, il est là, en détresse, dans toutes nos détresses. Il sympathise aussi à nos infirmités. Il sait les pauvres êtres que nous sommes, les faibles témoins que nous sommes. Il sympathise à nos infirmités. Eh bien, chers amis, ayant un tel souverain sacrificateur, approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce. C'est de là que nous recevrons cette miséricorde, cette grâce, ce secours dont nous avons besoin au moment opportun, c'est-à-dire dont nous avons besoin toujours. Le moment opportun, c'est l'instant, c'est tout instant de notre vie. Toujours, nous avons besoin du secours du Seigneur. Et c'est ainsi que le Seigneur nous l'accorde dans l'exercice de son activité sacerdotale. Au chapitre 5e, nous avons le Seigneur Jésus qui est salué. Il est salué comme par Dieu, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Et de nouveau, l'apôtre nous rappelle le chemin de souffrance qu'il a dû d'abord suivre avant d'être élevé dans la gloire et d'être salué par Dieu lui-même, souverain sacrificateur. Ces versets que nous avons, 7, 8, 9, que nous avons dans ce chapitre 5, sont les versets les plus émouvants de toutes les épîtres concernant le chemin de souffrance du Seigneur Jésus. Nous nous prenons à dire, en lisant ces versets, que le Seigneur Jésus non seulement a souffert, dans l'Évangile, il est dit plusieurs fois qu'il a dit à ses disciples, il faut que le Fils de l'homme souffre, mais il a dit aussi, Luc 9, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, et en pensant à moi-même, en pensant au salut merveilleux dont je suis l'objet, je me dis avec reconnaissance et avec adoration, Jésus, mon Sauveur, non seulement a souffert pour moi, mais il a beaucoup souffert. Le Seigneur a beaucoup souffert. Et nous avons la description de cette indicible souffrance qui fut la sienne jusqu'au jour où, ressuscité d'entre les morts, il monte dans la gloire, il est salué par Dieu, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. On sait que depuis le verset 11, une parenthèse s'ouvre. L'apôtre est obligé. Les frères auxquels il s'adressait étaient devenus paresseux à écouter. Ils s'étaient fatigués. Ils étaient devenus paresseux à écouter. Pourtant, des pensées merveilleuses. Alors l'apôtre s'arrête. Il s'arrête, il ouvre une parenthèse pour parler de choses très solennelles. Et cette parenthèse se ferme dans les derniers versets du chapitre 6e. Et alors, les versets que nous avons lus au chapitre 6 font suite, pour ainsi dire, à ce que nous avons lu au chapitre 5, où le Seigneur nous est présenté comme étant notre précurseur. Il est entré au-dedans du voile comme notre précurseur. Nous le voyons au-dedans du voile. L'épître aux Hébreux, l'épître des cieux ouverts, l'épître du ciel, dans lequel nous voyons l'adorable personne de Jésus, tel que notre précurseur. Précurseur, il y est tenté le premier, il y est entré le premier, ce qui veut dire que d'autres suivront, et nous avons le bonheur, chers amis, de l'attendre. Nous avons le bonheur de savoir que bientôt, nous-mêmes, de fait, nous entrerons dans le ciel. Lui-même nous en a tracé la voie, l'incomparable voie qui conduit au glorieux séjour. Nous allons bientôt la suivre, nous-mêmes, cette voie, pris, ravis par lui-même. Et nous allons nous aussi entrer dans le ciel, là où, pour le moment encore, nous le contemplons par la foi. Et nous avons la foi en attendant qu'il vienne. Et nous avons l'espérance, cette espérance qui est comparée à une ancre ferme et sûre de l'âme. L'ancre est jetée au-dedans du voile. Notre espérance va au-dedans du voile. Elle est là. Où est le glorieux objet de notre espérance? Et il y a la chaîne qui relie le navire à l'ancre qui a été jetée. Cette chaîne, c'est la foi. C'est la foi. Et l'ancre, ferme et sûre de l'âme, c'est l'espérance. C'est l'objet béni de notre espérance. Le Seigneur Jésus est là tel que notre précurseur au-dedans du voile. Nous le voyons par la foi, notre espérance est ainsi entretenue, il nous est accordé de patienter dans l'espérance. Nous attendons le moment où bientôt nous serons avec lui. Il est notre précurseur, ce qui veut dire que nous le suivrons bientôt au-dedans du voile. Au chapitre 7e, un tel souverain sacrificateur nous convenait. Les différents caractères sont énumérés par l'apôtre. Nous les avons lus. Un tel souverain sacrificateur, verset 26, nous convenait, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé plus haut que les cieux. Jusque-là, nous avons cinq caractères définissant la glorieuse personne de notre souverain sacrificateur. Un tel souverain sacrificateur nous convenait. Que veut dire exactement cette expression? Un tel souverain sacrificateur nous convenait. mais c'est que ce souverain sacrificateur a été d'abord notre sauveur. Nous étions des pécheurs, nous étions souillés, comme il est dit dans le livre d'un prophète, depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, mort dans nos fautes et dans nos péchés. Et qu'a-t-il fait de ces pécheurs? Il en a fait des saints. Or, nous voici par la grâce de Dieu rendus cela, nous sommes des saints, à ces saints convenait un tel souverain sacrificateur, c'est-à-dire saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs, et puis élevé plus haut que les cieux, c'est-à-dire traversant les cieux, comme nous venons de dire, prenant place dans la présence même de Dieu. Nous avons là l'élévation suprême du Seigneur Jésus, élevé plus haut que les cieux. Ensuite, il nous est parlé du fait que, ayant la sacrificature qui ne se transmet pas lui-même, les sacrificateurs d'autrefois mouraient, alors il fallait qu'il y en eût un autre qui exerçât la sacrificature, et ainsi de suite. Le Seigneur Jésus, dans la puissance d'une vie impérissable, exerce cette sacrificature, la sacrificature intransmissible. De là vient aussi qu'il peut sauver entièrement, c'est-à-dire jusqu'à l'achèvement de la course, tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Alors, le Seigneur Jésus était donc saint, innocent, sans souillure, parfait. Absolument parfait. Il n'avait pas besoin d'offrir des sacrifices pour lui-même. C'est un sixième caractère. Il n'avait pas besoin d'offrir des sacrifices pour lui-même. Et pour Aaron devait le faire pour lui-même. Le Seigneur, parfaitement saint, n'avait pas besoin de le faire. Il s'est offert lui-même pour les autres. Il s'est offert lui-même. Et cela, il l'a fait une fois pour toutes. Et enfin, la parole nous dit, les dernières paroles de ce chapitre 7, la parole du serment qui est après la loi établie d'un fils qui est consommé pour l'éternité. Nous avons là, chers amis, une plénitude de caractère concernant l'adorable personne de celui qui a été élevé plus haut que les cieux et qui, dont le ciel, travaille. Tel que notre souverain sacrificateur, toujours en grâce, en notre faveur. Alors, au chapitre 8e, et l'heure avance au chapitre 8e, nous avons, si nous nous occupions plus davantage, du sujet de la sacrificature du Seigneur, nous verrions avec ce début du chapitre 8, que nous avons là la somme de tout ce que l'apôtre a dit depuis la fin du chapitre 2 concernant le souverain sacrificateur qui est le notre Jésus. La somme de ce que nous disons, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. La somme, chers amis, pas seulement le résumé, pas seulement la conclusion, mais ce mot « somme » traduit un mot grec qui donne l'idée de chef, l'idée de tête, l'idée de sommet. Avec ce début du chapitre 8, nous atteignons, pour ainsi dire, un sommet, le sommet de tout l'enseignement que l'apôtre nous a donné concernant la personne de Christ, souverain sacrificateur. Eh bien, il nous est dit dans ces versets qu'il s'est assis. C'est la deuxième fois que nous avons cette expression. Il s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, ministre des lieux saints du vrai tabernacle que le Seigneur a dressé, non pas l'homme. Voici les cieux qui nous sont ouverts. Voici le Seigneur Jésus qui en est le glorieux ministre. Il est le glorieux ministre de ce tabernacle céleste du ciel lui-même, dressé par lui-même. Autrefois, les hommes, selon les indications de Dieu, avaient dressé un tabernacle dans le désert. Les enfants d'Israël avaient dressé ce tabernacle terrestre. Maintenant, il n'est plus question d'un tabernacle terrestre. Il n'est plus question de la loi. Il est question de toute autre chose. Il est question du christianisme. Et au christianisme se rattache la glorieuse pensée d'un tabernacle céleste du ciel lui-même, dressé par le Seigneur lui-même. Le Seigneur a tout fait pour que le ciel un jour nous soit accessible, pour que nous puissions y entrer. Il a tout fait, il a tout préparé par le sacrifice de lui-même. C'est lui-même qui a dressé le tabernacle céleste, qui nous a ouvert le chemin du ciel. Et à cause de lui et par lui, nous pouvons pénétrer jusque dans la présence même de Dieu. Dressé par lui-même, non par l'homme. Mais il est le ministre des lieux saints, il est le serviteur, il est celui qui officie là dans le ciel. Nous le répétons, nous nous répétons souvent, nous le répétons encore, qui travaille en grâce, en notre faveur. Et l'apôtre continue en disant que tout sacrificateur avait des dons, des offrandes à présenter. C'était le cas en Israël, eh bien, du Seigneur Jésus. Il fallait aussi, dit l'Écriture, nous l'avons lu au début du chapitre 8, au verset 4, à la fin du verset 3, il était nécessaire que celui-ci aussi eût quelque chose à offrir. Il était nécessaire que celui-ci aussi, qui est celui-ci, le Christ, le Seigneur, Jésus lui-même, il était nécessaire qu'il eût offri, qu'il eût aussi quelque chose à offrir. Et qu'est-ce donc ce quelque chose? Qu'est-ce qu'il a donc offert? Ah, mes chers amis, nous avons dans cette expression pourtant si vague, quelque chose, nous avons tout le sujet du chapitre 9 et tout le début du chapitre 10, c'est-à-dire la fin de l'enseignement doctrinal de l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 9, ce quelque chose qu'il a eu à offrir, son propre sang. Au chapitre 10, son propre corps, l'offrande du corps de Jésus-Christ fait une fois pour toutes. Voilà ce quelque chose qu'il était nécessaire qu'il offrit. Et il l'a offert, chers amis. Il l'a offert pour la gloire de Dieu. Et il l'a offert pour notre éternel salut. Il est ainsi devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Permettez que nous rappions cette parole du chapitre 5. Avons-nous tous obéi au Seigneur? C'est-à-dire, avons-nous tous cru en lui? Il nous appelle ce soir encore. Il appelle une âme ici qui n'a encore jamais eu affaire avec lui personnellement. Est-il pour vous, chère âme, est-il devenu cet auteur de votre salut éternel? Que Dieu opère en vous ce soir, n'attendez pas à plus tard, que vous puissiez parler vous aussi de Jésus comme étant le chef de notre salut éternel. Eh bien pour cela, il a offert son propre sang, il a offert son propre corps. Et alors au chapitre 9, nous avons ces versets que nous avons lus au verset 10, avec son propre sang, il est entré une fois pour tout dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. Voilà le premier passage où il est parlé de Jésus qui est venu, Christ étant venu. À ceux qui lisent avec attention ce chapitre 9e, remarquent combien ce verset 11 est la charnière de tout l'enseignement. Mais Christ étant venu, il y a quelque chose de très grand, les frères l'ont souligné dans les réunions du mois d'avril. Il y a quelque chose de très grand, quelque chose de majestueux, le Christ s'étant avancé, semblable au grand, au souverain sacrificateur Aaron, au grand jour des expiations, qui s'avançait jusque dans le lieu très saint, non sans trembler, avec du sang. Il ne savait pas s'il sortirait vivant. et bien tel que l'on voyait Aaron entrer dans le lieu très saint, ainsi Jésus s'est avancé. Il s'est avancé et il est entré dans les lieux saints avec son propre sang, une fois pour toutes, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il a accompli l'œuvre de la croix à l'entière satisfaction de Dieu. Pour nous, il a obtenu une rédemption, et une rédemption pour jamais, une rédemption éternelle. Sommes-nous tous assurés d'être ainsi rachetés par l'œuvre de notre puissant Rédempteur? Pouvons-nous tous parler de cette rédemption éternelle, chers amis? Pouvons-nous tous parler de cette rédemption éternelle comme étant notre, comme étant à moi? Puis-je dire, je suis un racheté du Seigneur? Eh bien, il est entré ainsi dans la présence même de Dieu, ayant obtenu une rédemption éternelle, et cela en vertu de l'effusion de son propre sang. Et alors, à la fin du chapitre 9, il nous est rappelé que le Christ est entré dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Une première fois, il est entré après avoir accompli l'œuvre de la croix. Nous ayant acquis une rédemption éternelle, il est entré dans le ciel maintenant pour une activité, une autre activité. Cette activité sacerdotale, afin de paraître pour nous devant la face de Dieu. Il pense à nous tous, chers enfants de Dieu. Il pense à nous tous. Il prie pour nous. Il n'oublie aucune de ses brebis qu'il chérit, objet de tout son amour. Il n'oublie aucune de ses brebis. Il paraît maintenant pour nous devant la face de Dieu. Au chapitre 10e, nous avons pour la troisième fois l'expression que le Seigneur s'est assis. Le Seigneur s'est assis au chapitre 10e, et il nous est dit ceci, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu, attendant désormais jusqu'à ce que ses ennemis soient mis pour marche-pied de ses pieds. Les frères auxquels l'apôtre s'adresse étaient persécutés. Ils avaient beaucoup à souffrir, des souffrances que l'on peut qualifier d'inouïes. Nous nous en rendons pas compte, chers amis. Ils étaient venus au Seigneur, ils avaient reçu ce Messie promis dans la personne de Jésus, ils lui appartenaient, ils jouissaient de sa grâce, et d'autre part, ils étaient persécutés, il y avait de terribles ennemis, et ces ennemis étaient là qui survivaient. Alors, ils auraient pu se poser des questions, mais comment se fait-il que ces ennemis, ces hommes, les enfants du peuple auxquels nous avons appartenu autrefois, qui nous persécutent incessamment, jour après jour, jusqu'à la mort, comment se fait-il que de tels hommes méchants puissent subsister? Alors l'apôtre de dire, le Seigneur est dans le ciel, notre Seigneur s'est assis à la droite de Dieu le Père, à perpétuité, attendons désormais que ses ennemis, jusqu'à ce que ses ennemis soient mis pour marche-pied de ses pieds. Et ainsi, par une telle déclaration, il encourage la foi des frères auxquels il s'adresse. Il les encourage en leur annonçant qu'un jour, le Seigneur aurait toute victoire sur ses ennemis qui maintenant les persécutaient. Attendant, eh bien, vous aussi, chers frères, sans dire l'apôtre, attendez aussi, le Seigneur attend désormais, attendez aussi, il vient le jour où ses ennemis auront à rendre compte de leur attitude et de leur comportement méchant à votre égard. Le Seigneur donc s'est assis à la droite de Dieu. L'Épître aux Hébreux, l'Épître des yeux ouverts, encore au chapitre 10, nous voyons le Seigneur l'a assis dans le ciel à la droite de Dieu. Et il est rappelé tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Il est rappelé ce témoignage merveilleux de l'Esprit Saint. Empruntant un passage au livre du prophète Jérémie, plus jamais je me souviendrai de leurs péchés, plus jamais je me rappellerai leurs iniquités. C'est là un passage, le passage, qui remplit toute âme de la plus parfaite assurance. Dieu ne se souviendra plus jamais de nos péchés. Un tel passage doit remplir de la plus douce paix, de la plus totale assurance, l'âme qui s'en est remise au Seigneur pour son salut et pour son salut éternel. Aucun doute ne doit s'élever dans cette âme, du moment que l'Esprit Saint dit que plus jamais Dieu ne se souviendra de nos péchés ni de nos iniquités. Au chapitre 11e, nous avons la foi de tous ces témoins de l'Ancien Testament, chapitre certainement des plus instructifs et des plus précieux en même temps, pour arriver au chapitre 12e, la conclusion de l'enseignement du chapitre 11. L'apôtre nous montre que par-dessus tous ces témoins, il y a le témoin par excellence, le témoin fidèle et véritable. Il y a Jésus, de nouveau ce nom de Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui a enduré la croix, qui a méprisé la honte et qui a enduré la contradiction de la part des pécheurs contre lui-même. Fixez donc les yeux sur lui. Il est dans le ciel est ouvert, Jésus est là dans le ciel. Fixez les yeux sur lui. Il est le chef et le consommateur. Lui, le témoin parfait, le témoin par excellence, a réalisé dans sa plénitude tout ce que comporte la foi. Il a été, pour ainsi dire, l'alpha et l'oméga de la foi, le chef et le consommateur de la foi. Dans sa vie ici-bas, chers amis, nous voyons la foi dans sa perfection. On voudrait définir la vie du Seigneur sous un caractère donné. Nous dirions, c'est la perfection de la foi. La foi a été réalisée en perfection par le Seigneur. Il est le chef et le consommateur de la foi. Regardez à lui, fixez les yeux sur lui. Il a tant souffert, il a enduré la croix, il a enduré la contradiction, il a méprisé la honte à cause de la joie qui était devant lui. Eh bien, considérez-le donc. Troisième fois, cette exhortation à considérer le Seigneur. Considérez-le donc, afin que vous ne soyez pas là, étant découragés dans vos âmes. Ah, chers amis, si le résultat d'une telle lecture ce soir était cela, être amené à considérer le Seigneur, être amené à ne pas être lasse, fatigué, découragé dans nos âmes, par la contemplation d'une telle personne, ne pensez-vous pas que ce serait un résultat digne de Dieu lui-même, digne de Dieu lui-même, qui a permis la lecture de ces passages, de sa parole? Mais c'est ce que Dieu veut opérer en nous mettant en présence de sa parole. En nous faisant lire de tels passages, il veut nous amener à considérer le Seigneur, il veut nous amener à persévérer, n'étant pas las, découragés dans nos âmes. Chers frères et sœurs, il y a dans les temps que nous vivons certainement bien des raisons de découragement. Dans la vie de chaque jour, nous voyons, en pensant à nous-mêmes, en pensant à nos familles, en pensant au témoignage local auquel nous appartenons, il y a, humainement parlant, des raisons d'être las, d'être découragé. Humainement parlant. Mais d'après les déclarations de la parole, eh bien, ce soir encore, nous sommes invités à regarder au Seigneur, à fixer les yeux sur lui, c'est-à-dire sur cet objet à l'exclusion de tout autre objet, comme le dit la note. Fixons les yeux sur lui, le chef et le consommateur de la foi, afin que nous continuions à prendre courage, n'étant pas las, n'étant pas fatigués dans le chemin, n'étant pas découragés, mais continuons, persévérant malgré tout, comme ces soldats du juge d'autrefois, ces soldats de Gédéon, desquels il pouvait être dit, fatigués, mais poursuivons toujours. Et enfin, au chapitre 13, nous avons alors le Dieu de paix qui a ramené le grand pasteur des brebis dans la puissance du sang de l'Alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, comme on l'a fait remarquer, c'est somme toute le seul passage de l'Épître aux Hébreux qui nous parle positivement de la résurrection du Seigneur, non pas qu'il ne soit pas fait allusion à la résurrection du Seigneur au chapitre 5, au chapitre 7, mais le fait lui-même du Seigneur qui est ressuscité d'entre les morts, nous l'avons somme toute une seule fois, tout à la fin de l'Épître, dans ces mots, le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus. Il est donc ressuscité, il est monté en haut, comme il est dit dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, psaume 68, Éphésiens 4, il est monté en haut, il est là, dont la gloire, là-haut, notre Seigneur Jésus. Et alors, un vœu est exprimé par l'apôtre, que le Dieu de paix vous rende accompli en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, faisant en vous ce qui est agréable devant lui par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il y a donc dans ce passage une œuvre que nous avons à accomplir pour Dieu. Elle a son importance, cela est incontestable. Dieu ne nous a pas laissés sur la terre pour ne rien faire du tout. Nous avons à travailler pour lui, à le servir là où il nous a placés. Mais il y a une autre œuvre, c'est celle que Dieu lui-même opère dans nos cœurs, et de laquelle on a dit qu'elle était plus importante que l'œuvre que nous pouvions accomplir pour lui. Il y a cette œuvre qu'il fait en nous, et il l'a fait par Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'adorable personne qui est dans le ciel et que nous avons le bonheur de considérer et de contempler. Nous te contemplons dans la gloire, ô cher Sauveur, et à lui, en effet, revient tout honneur et toute gloire. Nous avons là l'une des 14 doxologies du Nouveau Testament, c'est-à-dire ces accents de louange extrêmement brefs, incisifs, qui jaillissent du cœur que nous avons depuis l'Épître aux Romains jusqu'au livre de l'Apocalypse. Nous avons ici une de ces doxologies, Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Eh bien, chers amis, chers frères et sœurs, en effet, notre Seigneur est digne de tout honneur. L'Épître aux Hébreux, l'Épître des cieux ouverts, l'Épître du Christ Jésus, élevé dans la gloire, qui travaille pour nous, qui travaille en nous, toujours en grâce, et son œuvre de grâce en notre faveur. Chers amis, il est digne de tout honneur et de toute gloire. Puissions-nous véritablement le contempler et le considérer encore et fixer les yeux sur lui. À lui revient tout honneur. Amen.